découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Bonjour Olivier.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va ?
En pleine forme, tout va bien et il fait beau, donc c'est intéressant. C'est bien pour le moral.
Ah, c'est bon pour le moral, comme dirait la compagnie créole. Tiens, en parlant de musique, quelle est la musique qui vous fait danser à coup sûr, vous, mon cher Olivier ?
Le meringue, j'en avais déjà parlé de ça. Moi, j'aime beaucoup aussi le classique, le baroque. En fait, j'ai des goûts assez variés.
Attendez, vous avez dit le meringue ?
Oui.
Le meringue, la musique latine, hein ?
Oui, j'adore ça. Ça, c'est très dansant, c'est très chaloupé, voilà.
Ah, bah écoutez...
En fait, c'est intéressant parce que la musique, les rythmes, c'est quelque chose d'ancestral qui nourrit notre cerveau paléolithique. Et l'une des premières manifestations de l'être humain, de l'humanité, ça a été la musique et la danse. C'est une des caractéristiques de l'humain, même s'il y a des parades dans les animaux, mais dans ce qui caractérise notre humanité, parmi plusieurs éléments, la musique, la danse, c'est quelque chose qui est partagé et qui réunit les gens. Or, vous savez comme c'est important en neuronutrition de satisfaire tous les besoins du cerveau. Et parmi les besoins essentiels, on a ce besoin de bouger, de danser, de rythmer et de partager. Alors, il y a même aujourd'hui, et c'est très intéressant, des très belles études qui montrent que de danser, et plus encore de danser ensemble, en partageant des émotions, en partageant de la joie, en partageant des moments particuliers, eh bien, ça peut être thérapeutique. Par exemple, dans la maladie de Parkinson ou dans l'accompagnement après les cancers, où il faut recomposer sa vie, restructurer, repositiver, reconstruire. Et bien, danser favorise la résilience après les traitements de traitement anticancéreux, par exemple, là, c'est vraiment des approches qui nourrissent le cerveau. On est en plein dans la neuronutrition.
Eh bien, dis donc, je ne m'attendais pas à ça, parce que sachez, chers auditeurs, ce n'est pas le sujet du jour, mais on en revient.
Pas du tout.
On y reviendra ultérieurement, peut-être. Non, je vous posais ça, parce que dans quelques temps maintenant, on va se retrouver sur la scène du Nutritalk Gala, et j'ai hâte de vous y voir. Ce sera le 12 juin, donc je le rappelle, petit côté promo, rendez-vous sur le site nutritalkgala.fr ou directement passer par le site de Nutri Radio. En cliquant sur Nutritalk Gala, vous allez avoir le détail de cette journée et cette soirée, cette nuit incroyable que l'on vous propose pour la deuxième année consécutive avec donc le docteur Olivier Coudron. On remercie notre partenaire sur cette émission, laboratoire Lepivitz, votre expert en micronutrition et nutraceutique qui nous écoute et qu'on embrasse. Merci à eux de nous permettre de vous proposer ces contenus d'intérêt. C'est du clean label, c'est du propre, mesdames, messieurs. Voilà, on les salue bien bas. Alors aujourd'hui, je vous disais que le sujet du jour, c'est pas du tout la danse. Non, c'est l'olfactothérapie, monsieur Olivier.
Oui, alors en fait, c'est peut-être une bonne introduction de parler de cette danse, de ce besoin archaïque. Parce que si l'on regarde bien, il y a 35, 40, 50 000 ans, lorsqu'on commençait à vivre dans des tribus, dans des familles, eh bien, on était, notre vieux cerveau, qui finalement est un peu le même, on n'a pas beaucoup changé depuis quelques dizaines de milliers d'années, eh bien, notre vieux cerveau, il avait besoin d'être en éveil. Et parmi les cinq sens, qui sont en fait les fenêtres sur le monde, qui permettent d'avoir une certaine vigilance, qui permettent de se connecter, eh bien, il y a un sens particulier que j'aime bien, qu'on oublie en neuronutrition, enfin qu'on oublie parfois dans une approche nutritionnelle, mais qu'on va pas oublier en neuronutrition, c'est l'odorat. Le sens de l'odorat est très particulier par rapport aux autres sens, parce qu'il est, et c'est une originalité, il est connecté directement avec notre cerveau. Il passe pas par le thalamus. C'est une structure neurologique centrale, le thalamus, et qui est un peu le relais. le relais des sens, de tous les sens et de beaucoup d'autres voies neurologiques. Mais pas l'olfaction. Lorsqu'on sent des odeurs, eh bien, ça passe directement au-delà du thalamus. Ça va directement être en contact avec notre cerveau post-reptilien, notre cerveau limbique, le cerveau des émotions, le cerveau de l'affect, le cerveau de la relation à l'autre, la famille, à la relation amoureuse, le cerveau de la mémoire. Et donc, on voit tout de suite le potentiel de faire attention, de prendre soin de ces odeurs qui sont autour de nous, de cette olfaction. Et on voit, on devine, et je pense que je vais le développer, que ce sens, si on en prend soin et si on l'utilise en neuronutrition, eh bien peut être une voie pour nourrir le cerveau de certaines sensations utiles et, on va le voir, très 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 utiles même dans la prévention de certaines maladies.
Alors, on va marquer une toute petite pause et on va rentrer encore plus dans le détail de cette émission avec le docteur Olivier Coudron, c'est sur Nutri Radio, restez avec nous.
Soutenez votre bien-être mental et votre cognition avec les compléments alimentaires Lepivitz. Lepivitz, votre laboratoire familial expert en nutraceutique, vous propose des produits Clinabel aux ingrédients brevetés et soutenus par la science. Recommandés par les professionnels de santé, nos compléments allient qualité et éco-responsabilité. Nourrissez votre esprit pour une cognition optimale avec Lepivitz. Pour plus d'infos, rendez-vous en pharmacie ou sur lepivitz.fr. Lepivitz, votre allié pour un esprit clair et serein.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Et on parle de l'olfactothérapie, je ne sais pas si ça se dit.
Oui, bon, voilà. Oui, c'est un terme qu'on emploie aujourd'hui, olfacto, l'olfaction, sentir, sentir des odeurs, des parfums, des arômes, et thérapie, ça soigne. Ça supposerait alors que sentir certains parfums, certaines odeurs pourrait accompagner, prévenir, soigner, optimiser des traitements. Eh bien, très, très bonne suggestion, Fabrice, d'avoir ce mot. Oui, olfactothérapie, ça a du sens, ça fonctionne. Et en effet, on a découvert, il n'y a pas très longtemps, hein, les études publiées un peu solides, c'est de 2023, quoi. C'est l'étude de Small. Voilà, c'est vraiment possible d'agir avec ce levier méconnu pour améliorer un certain nombre de fonctions. Alors, la première, et qui est peut-être la plus intéressante pour nous en tant que médecin et en neuronutrition, c'est la prévention ou la limitation du développement des maladies neurodégénératives. Alors ça, c'est impressionnant parce qu'on s'y attendait pas du tout quand on a commencé ces premières études. Et le fait de sentir des parfums, des arômes, des odeurs. Je dis arômes parce que les études ont été faites principalement sur l'aromathérapie olfactive. Donc, on a fait sentir à des patients en déclin cognitif modéré, on a fait sentir des huiles essentielles, des parfums d'huiles essentielles, et on les a fait respirer de façon discrète. Hein, c'est pas saturé une pièce, hein, c'est assez discret, mais néanmoins perceptible. On l'a fait sentir la nuit, pendant une exposition olfactive d'environ 2 heures durant la nuit. Voilà, donc c'est des protocoles très précis, mais c'est ceux-là qui marchent. Ça marche pas de la même façon si c'est le matin, si c'est l'après-midi. Là, on le fait la nuit. Eh bien, environ 2 heures d'olfactothérapie nocturne pendant quelques mois ont clairement montré une amélioration des performances cognitives, donc de la mémoire, des facultés attentionnelles, donc les capacités d'attention. Et ça s'est également observé sur de l'imagerie médicale. Ça se voit dans le cerveau. Ces réseaux de neurones, ces connexions extraordinaires qui nous composent, eh bien, vont réagir, vont développer des connexions neuronales nouvelles. Et ça, c'est vraiment des images qui montrent qu'il y a un effet et que cela réellement, biologiquement, physiologiquement, va limiter la progression de ces fameuses maladies neurodégénératives, notamment Parkinson, mais aussi la maladie démentielle comme la maladie de l'Alzheimer.
Hop, j'avais éteint mon micro, pardon.
je me dis, il est quoi, il est...
Ah oui, non, mais j'ai éteint mon micro pour, parce que vous savez, pour éviter les éternuements, notamment. Mais bon, on va pas entrer dans le détail. L'olfactothérapie, c'est aussi l'odeur qui rentre dans nos narines, parfois sans le vouloir, voyez-vous, et qui nous font éternuer.
Exact.
Alors par contre, ça veut dire que on voit les effets bénéfiques de cela, mais ça veut dire aussi à contrario qu'il faut faire attention, et vous l'avez dit en introduction, à ce qu'on va, à ce qu'on va sentir, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous savez, on peut aller dans des parfumeries parfois et sentir plein d'odeurs différentes, et au bout d'un moment, on a mal à la tête.
Oui, alors c'est probablement par... alors, il y a deux phénomènes. Il y a la saturation sensorielle, le fait de respirer trop fort, trop intense, vouloir en faire trop, de la sniffothérapie. Hein. Alors là, évidemment, on peut vite saturer les décharges électriques qui vont des cellules neurosensorielles du nez vers le cerveau. Et là, ça devient presque migraineux, ça devient une saturation électrique des signaux intenses. Eh bien, l'organisme se met en alerte de « attention, attention, c'est trop ». Donc ça, c'est une première hypothèse. Quelle que soit la molécule odorante, si elle est trop forte, ça peut devenir désagréable. Ça, c'est une chose. Après, il y a aussi, dans les parfums, dans les molécules volatiles, des toxiques. C'est pas vraiment le sujet que je voulais développer maintenant. Mais, en effet, lorsqu'on va respirer des parfums, eh bien, il y a des aldéhydes volatiles. Il peut y avoir différentes molécules qui sont volatiles, des hydrocarbures, qui peuvent, alors, exercer un effet délétère. Voilà, dans les parfums, dans les arômes artificiels, hélas, aujourd'hui, on a ces molécules qui peuvent avoir des effets aussi perturbateurs, hormonaux, perturbateurs endocriniens. Mais je voulais vraiment insister sur le côté positif et donc dire que avec des odeurs qui sont perçues, mais modérées, il s'agit encore une fois de que ce soit perceptible consciemment, mais pas désagréable. Eh bien, quand on se situe dans cette frange-là, dans cette limite-là, c'est là qu'on a des effets vraiment intéressants. La sensation, et là ici olfactive, devient une nourriture. On est en plein dans la neuronutrition. Alors, il y a des effets intéressants sur la cognition, hein, donc sur les capacités intellectuelles. On l'a vu dans des maladies dégénératives après l'âge de 50, 60 ans et même au-delà. Mais on a aussi des applications intéressantes, par exemple pour les étudiants, les écoliers, les lycéens, les personnes en apprentissage. Avoir un parfum, une atmosphère, même pas deux heures, hein, en ce cas-là, c'est davantage le matin, entre le réveil et 10h, 10h30 dans la matinée. Eh bien, s'exposer à des arômes comme par exemple la menthe poivrée, eh bien, va stimuler les fonctions attentionnelles, la concentration, amener plus d'éveil cortical, ce qui est vraiment ce qu'on recherche quand on est à l'école ou lorsqu'on est à la fac. Donc, il y a des applications vraiment très vastes dans le domaine cognitif.
Alors ça, c'est super. Donc, il y a des odeurs qui vont nous booster, il y en a d'autres qui vont avoir des effets peut-être plus sédatifs, d'autres oui. Équilibrantes. Comment on choisit la bonne odeur au bon moment ?
Alors, c'est une excellente question. Alors, oui, de façon générale, on décrit des odeurs qui sont plutôt psychostimulantes. Le romarin, par exemple, la menthe, voilà. Ce sont des odeurs plutôt généralement psychostimulantes, alors que les citrus, dont on a déjà parlé, les flavors d'agrumes, citrus aurantium, le petit grain bigarade, la mandarine, voilà. Ce sont des arômes qui sont plutôt sédatifs. La lavande également, qui possède aussi des propriétés anxiolytiques et antidépressives bien, bien documentées. Donc, on a des généralités. Mais, et là, il y a un grand, grand mais. Cela reste individuel, personnel et intimement lié à notre expérience sensorielle personnelle. Si, par exemple, dans ma vie, j'ai été exposé à des parfums qui sont bons en tant que tels, par exemple la lavande, hein, qu'on utilise beaucoup en parfumerie, mais que j'ai souvent senti ce parfum de lavande dans des conditions désagréables, par exemple chez ma grand-mère hospitalisée qui mettait du parfum de lavande dans sa chambre et c'était des moments qui me font de la peine parce qu'elle est partie, etc. Voilà. Alors, quelques années plus tard, comme la Madeleine de Proust, quand je vais sentir la lavande, je vais repenser à ma grand-mère et je vais avoir peut-être une émotion qui peut être négative, qui peut être triste. Voilà. Et on a ainsi des cartes d'identité qui sont un peu générales, c'est vrai, mais c'est très individuel. Autrement dit, comment choisir, Fabrice ? Eh bien, il faut faire l'expérience. Il faut dire, tiens, je vous suggère, par exemple, vous avez 15 ans, vous faites des études, respirez un petit peu un parfum de menthe sur votre bureau le matin, et pendant, mettez 2-3 gouttes sur un buvard, tout simplement, et ça va s'évaporer. Hein. C'est pas la peine de faire nécessairement des nébulisations. Voilà. Et puis, dites-moi comment vous vous sentez. Est-ce que c'est agréable, désagréable ? Comment vous êtes ? Voilà. Et c'est ça, c'est comment vous êtes. Quel est le feedback? Quelle est votre perception personnelle? Et alors, en ce cas-là, on va négocier, on va conseiller, orienter vers un choix qui tient compte des données un petit peu scientifiques, c'est vrai, mais aussi de notre ressenti, puisque l'odeur, je le disais en introduction, c'est en contact direct avec le limbique, avec les émotions.
C'est vrai que c'est très, très personnel, vous avez bien raison. C'est, si on a été associé à quelque chose qui est perçu comme très positif et que nous, on a associé à cela un mauvais souvenir, bon, ça va pas faire, ça n'aura pas l'effet escompté. Mais en gros, je suis fatigué, je rentre une journée de travail tendue, je suis déjà un petit peu sur les nerfs. Et puis, comment faire pour me calmer avant de retrouver la famille et de m'engueuler avec tout le monde?
Alors, moi, j'ai une huile essentielle que je recommande vraiment et que j'enseigne bien dans les cours de neuronutrition pour cette sensation de lâcher le stress, d'anxiété même, hein, dans les crises d'anxiété. Alors, on déborde un petit peu cette situation que vous évoquez. Mais c'est la camomille, l'huile essentielle de camomille. Donc, on met une petite goutte de camomille dans le creux de la main. On frotte les deux mains l'une contre l'autre pour chauffer un peu les mains et puis on respire à 5-6 cm du nez, on met comme un masque finalement, et on va sentir se dégager ce parfum de camomille noble. Donc il faut juste une toute petite goutte, hein. Il ne s'agit pas de faire, encore une fois, de la saturation. Eh bien, ça c'est très intéressant parce que c'est quasiment universel, parce que c'est très très pharmacologique. Ces arômes de camomille déclenchent des sensations d'apaisement, anti-stress, calment l'anxiété, calment l'angoisse, calment les attaques de panique. Par exemple, avant un Nutri-Talk Gala, imaginons que je sois conférencier anxieux avec le trac d'être là devant une telle assemblée extraordinaire. Eh bien, je vais respirer dans les coulisses une goutte d'huile essentielle de camomille et j'arriverai complètement zen. Voilà.
Ah, donc,
voilà un exemple. Sinon, après, moi, j'aime beaucoup la lavande vraie comme parfum aromatique qui en général, je veux dire, un peu anxiolytique, antidépresseur, réparateur. Voilà. Mais voilà, ce sont des généralités. Après, chacun peut et doit faire son propre choix et trouver ses propres repères.
Alors, comment on peut distinguer, puisqu'on sait que ces huiles essentielles comme la camomille, par exemple, ou la lavande que vous avez citée, sont largement promues hein, pour ce côté réduction d'anxiété. Mais est-ce qu'on peut distinguer l'effet pharmacologique, comme vous l'avez dit, de l'effet placebo?
C'est difficile. C'est difficile, en effet. Alors, on peut, et ça fait partie de nos protocoles d'expérience clinique, d'essais cliniques, c'est qu'on peut faire sentir certains parfums qui sont supposés ne pas avoir d'effet anxiolytique. On va prendre, par exemple, je cherche en fait, ceux qui viennent dans l'esprit sont plutôt anxiolytiques. On va prendre l'eucalyptus globulus, voilà, qui a d'autres propriétés, hein, ou un parfum, j'en trouve pas, j'allais dire la vanille, parce que la vanille c'est intéressant pour d'autres raisons, on pourrait en parler longuement. On prend une huile essentielle de térébenthine, voilà, c'est pas anxiolytique. On va faire deux groupes, un groupe avec la camomille, l'autre avec l'odeur placebo, et on compare les scores d'anxiété avec des échelles, hein, des échelles cliniques, des marqueurs biologiques parfois, ça a été fait aussi. Donc ça permet en effet d'objectiver et de séparer l'effet biologique, réel, olfactif, de l'effet placebo qui reste un élément extraordinaire en neuronutrition. Hein. Je le rappelle, l'effet placebo, moi j'adore. Je trouve que c'est vraiment l'explication, enfin en tout cas un phénomène qui montre la puissance du cerveau, de la pensée et de la relation thérapeutique dans les processus d'auto-guérison. Donc en médecine, souvent l'effet placebo, il est considéré un peu comme un artefact qui nous ennuie, hein, qui brouille les données, comme si la médecine était une science objective. Quelle ambition! Eh bien non, c'est pas du tout ça. La médecine, c'est subjectif, et dans ce subjectif, il y a l'émotion, la croyance, la philosophie, les convictions, les suggestions. Et puis, il y a aussi cette relation invisible entre le thérapeute qui donne un conseil ou un médicament et cette relation elle-même, elle est thérapeutique dans certaines circonstances. On pourrait faire une émission là-dessus, d'ailleurs. C'est très, 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 très intéressant.
Ah oui, l'effet placebo, non, mais c'est souvent sous-estimé, galvaudé.
Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, je vais Je vais me taire aujourd'hui parce que sinon on débordera, mais on pourrait faire une prochaine émission sur le placebo.
Eh ben, on en fera une, effectivement, parce que je trouve souvent balayer l'effet thérapeutique de beaucoup de choses en disant non, mais c'est l'effet placebo, comme si parce que c'est placebo ça ne comptait pas, alors qu'effectivement,
et oui,
c'est et tout. Oui. L'effet placebo, ça peut être beaucoup. Je sais pas si vous avez des chiffres, mais il me semblait avoir entendu que c'était parfois jusqu'à 30% d'efficacité dans certains protocoles. Donc, on en parlera.
C'est ça, tout à fait ça, mais on en reparlera. On va ouvrir le dossier.
Le dossier placebo, mesdames, messieurs, pour une prochaine fois. En tous les cas, merci à vous, Olivier Coudron. On sait donc que vous allez respirer. Mais enfin, non, vous n'êtes pas du genre stressé. Vous faites les conférences comme un boulanger fait des petits pains. C'est-à-dire que, hop, vous n'êtes pas stressé.
On va vous... Les petits pains. Si seulement on avait encore une demi-heure, on parlerait de ces odeurs que l'on va sentir dans la rue qui sont de l'olfactothérapie marketing. C'est des neurosciences appliquées au marketing. On diffuse des parfums de brioche chaude, hop, qui contacte immédiatement le système limbique qui nous dit « Oh, c'est bon, ça m'appelle les petits croissants de ma grand-mère encore une fois et j'ai envie d'acheter ». Ça, c'est du neuromarketing. Hein, ça montre que il y en a qui s'intéressent à ces neurosciences, à cette neuronutrition. Mais bon, là, c'est pas dans des vertus, dans des applications vertueuses.
Vous savez, tiens, en parlant de ça, d'autres applications vertueuses, j'ai vu, alors je suis tombé il y a quelques temps sur une publicité, mais ça nous rappelle tous des choses, hein, quelqu'un qui met l'effet impulse, en gros, on met un déodorant, vous savez, on met un parfum et de seul coup, toutes les gens se jettent à notre... Est-ce que ça existe, ça?
Mais bien sûr, alors ça c'est extraordinaire, voyons, il y a tellement d'émissions à faire, Fabrice, ce sont les phéromones. Alors on a, avec l'olfactothérapie évidemment, on pourrait parler un petit peu plus longuement des phéromones, c'est-à-dire des toutes petites molécules qui, en quantité infinitésimale, sont néanmoins perçues par des neurones. Alors c'est très spécifique, hein. Il faut savoir qu'on a énormément de cellules nerveuses discriminantes dans le nez, et on est capable de sentir environ 400 saveurs, odeurs, flaveurs différentes. Donc, on a des récepteurs très spécifiques à certaines phéromones, notamment interhumaines qui ont des connotations sexuelles, hein, qui sont liées au désir, à la libido, à notre programmation génétique de se reproduire. Et on est capable, avec ces phéromones, de dégager une attraction sexuelle. Tout à fait. Voilà. Et c'est lié à la chronobiologie. Ça permet aussi de resynchroniser des horloges biologiques, ces phéromones. C'est un monde passionnant. Et c'est pour dire qu'en fait, nos sens de l'olfaction, eh bien, notre sens de l'olfaction, c'est un sens prioritaire, majeur, qu'il faut cultiver. Et c'est d'ailleurs, on en avait parlé dans la maladie de Parkinson, l'un des signes précoces qui annonce la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Quand on perd l'odorat, en général, c'est un signe très annonciateur avec la constipation. Hein, donc, ce sont deux signes très, très éloignés du cerveau apparemment, mais non. Devenir constipé alors qu'on avait un transit régulier et perdre l'odorat, eh bien, ce sont des signes qui peuvent être, je ne dis pas qu'ils le sont, hein, mais qui sont annonciateurs bien souvent de perturbations neurocognitives. Et donc, il faudra peut-être consulter, faire attention, explorer ça davantage.
Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est fascinant. Chaque phrase, on se dit, mais tiens, encore un sujet. Bon, c'est quoi, ça tombe bien, parce que on va se poser la question de savoir si vous revenez l'année prochaine sur Nutri Radio, la saison prochaine. On espère très fort que oui. Ce serait dommage d'arrêter ça.
Serait-ce une invitation officielle devant des dizaines de milliers d'auditeurs?
Tout à fait. Non, mais il faut que vous continuiez, là, Olivier Coudron. Honnêtement, vous êtes bien, vous êtes à la maison, on est bien, les gens vous adorent, le succès de ces émissions, il y a de plus en plus d'auditeurs, on ne peut pas partir comme ça. Ne partez pas comme ça, on en reparlera. Bon, mesdames, messieurs, cette émission est dispo en podcast à partir de tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous, au revoir Olivier.
Au revoir, à bientôt.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.